des mots pour le dire. Dominique Demichel, médecin et psychanalyste, et Simon Martin. La fraternité, voilà un concept coincé entre la liberté et l'égalité qui a parfois bien du mal à se faire entendre. Eh bien, c'est sur ce thème que nous réfléchirons aujourd'hui en compagnie du docteur Dominique Demichel.
Le problème qui nous est posé, c'est de savoir si nous avons la capacité collective de refabriquer le minimum de solidarité. Au fond, la question est très simple. Il faut redonner aux gens le désir de payer des impôts pour ceux que l'on ne connaît pas. C'est ça la solidarité. C'est que je paye pour des gens que je ne connais pas parce que je m'en sens suffisamment semblable.
Liberté, égalité, fraternité, l'un ne va pas sans l'autre, comme nous avons pu le voir dans nos précédentes émissions, le docteur Dominique Demichel et moi-même. Liberté, égalité, fraternité, c'était aussi le thème d'une émission qui a été diffusée le 11 octobre 2014, ce soir ou jamais, émission dans laquelle étaient invités, entre autres, François Dubé, Jacques Attali, Cynthia Fleury ou encore Éric Zemmour. Alors, docteur Dominique Demichel, dans ce petit extrait qu'on vient d'entendre, François Dubé, sociologue, tente d'expliquer la fraternité à partir de la devise républicaine et pour lui, fraternité égale solidarité dans l'espace d'un État en tout cas.
Oui, je crois qu'on sent bien dans ces trois mots qu'il y a quelque chose de tout à fait fondamental, comme on a pu le voir déjà du côté de la liberté, du côté de l'égalité. La fraternité, c'est quelque chose de complexe et il me semble que la notion de solidarité est un petit peu différente. Je crois que notre monde contemporain n'a pas oublié cette dimension de la fraternité, mais en fait, ce mot de fraternité est quand même relativement peu utilisé, et on utilise beaucoup plus le mot de solidarité, comme s'il s'agissait au fond de nommer un contenu relativement similaire, probable, et en utilisant un autre mot, donc le mot de solidarité, probablement pour le laïciser, dans un sens, c'est-à-dire pour lui faire perdre son côté un petit peu religieux, au moins du côté de religaré. Hein, les frères dans l'histoire, c'est quand même les frères, par exemple, des communautés monastiques ou les sœurs dans les communautés monastiques.
D'ailleurs, la sacralité, on y viendra tout de suite après, justement.
Voilà. Ouais. Oui, tout à fait. Et donc, au fond, notre monde contemporain a nommé ça solidarité.
Mais vous êtes d'accord que le contenu, grosso modo, en tout cas quand on parle de la fraternité au niveau d'un État, hein, bien sûr, ou d'une communauté, et ça rejoint un petit peu la solidarité.
Oui, je pense que ça se rejoint, mais je crois que la solidarité, fondamentalement, ça n'est pas un sentiment, hein, ça n'est peut-être même pas une vertu, ça serait quelque chose qui pourrait être de l'ordre du devoir. C'est-à-dire, on pourrait en quelque sorte imposer finalement une solidarité. Hein. J'ai pu dire dans les situations...
Les impôts, comme explique voilà. Ce sociologue, exactement.
Voilà, tout à fait, on peut imposer... Alors évidemment, la solidarité impose une... Enfin, l'idée de solidarité impose une sorte de... Enfin, invite à penser une sorte de gratuité. Voilà, on est solidaire de l'autre, mais on le choisit volontairement. Mais c'est vrai que dans l'impôt, il y a quelque chose de l'ordre d'une solidarité. Tandis qu'il me semble que dans la fraternité... Comme on l'a vu dans les émissions précédentes, on ne peut pas décider une fraternité, puisqu'une fraternité, c'est un choix personnel et qu'en plus, elle implique une réciprocité. Dans la solidarité, voilà, que celui qui est le plus riche, quelle que soit cette richesse hein, financière, spirituelle, affective, du côté de l'écoute, toutes plein de choses comme ça, celui qui est le plus riche, il donne à celui qui est le plus démuni, mais il n'y a pas de réciprocité. Hein, tandis que dans la fraternité, il me semble qu'il y a cette réciprocité. Donc je dirais, la fraternité, c'est peut-être de la solidarité, mais en plus, un lien affectif, un lien de sentiment. Et je crois que, surtout, la solidarité, elle n'est pas réciproque. Il n'y a pas de solidarité réciproque, ça va que dans un sens. On prend aux riches, on donne aux pauvres, pour faire court. Un don sans contre-don, même si on peut penser qu'une solidarité qui vous implique profondément, qui fait que vous ne donnez pas juste le superficiel à l'accessoire, mais quelque chose qui vous compte, qui compte pour vous, implique un contre-don, c'est-à-dire un contre-don d'être, c'est-à-dire vous êtes en accord avec vos valeurs et vous avez l'impression de faire quelque chose qui est juste et qui est bon.
Et de vous enrichir peut-être également.
Voilà.
Alors tout à l'heure, vous avez prononcé le mot sacralité, eh bien, on y vient, parce que fraternité, en effet, ça rime aussi avec communion fraternelle, par exemple, et communion, bien sûr, avec le sacré.
Oui, je crois. Alors, c'est Régis Debray, dans son livre « Jeunesse du sacré », qui différencie du côté du sacré le sacré d'ordre et le sacré de communion. Le sacré d'ordre, c'est ce qui impose le respect du côté d'en haut, c'est ce qui a à voir avec l'État, avec le pouvoir, avec l'Église ou les églises, les gens qui ont des fortes responsabilités, pourquoi pas l'armée, une forme de pouvoir ou de savoir. Il y a une sacralité d'ordre avec un protocole, avec une hiérarchie, avec du respect, avec une institution, voilà. Et en quelque sorte, c'est décidé à l'avance. Tandis que l'autre, c'est-à-dire le sacré de communion, implique qu'il y ait là aussi un lien, une profondeur, des sentiments, et au fond, derrière, il me semble, une fraternité. Dans ce sacré de communion, il y a cette dimension-là.
Alors, le sacré de communion, où est-ce que vous le situez dans notre société qui, au contraire, c'est ce qu'on entend, complètement désacralisé?
Je pense qu'il y a une désacralisation dans notre société contemporaine qui est, dans une certaine mesure, relativement, je dirais pas tout à fait superficielle, mais qui n'oublie pas cependant qu'il y a des choses qui sont importantes. Hein. Et en particulier du côté des liens de la famille, du côté des liens qui peuvent se tisser par rapport à un drame, à une souffrance, à une maladie, à un événement traumatisant à l'échelle d'une famille ou d'une nation, je crois qu'on retrouve à ce moment-là une proximité qui renvoie, par exemple, à la sacralité de la vie ou à la sacralité des sentiments.
Et pourtant, les défenseurs de la famille prétendent que ce lien est en train de se déliter dans notre société actuelle.
Je pense que la mort de la famille, et on l'annonce depuis plusieurs décennies, il me semble qu'il y a une trentaine d'années déjà, on en parlait énormément. Il me semble en tout cas que pour revenir à la fraternité, c'est-à-dire ce lien de fraternel, c'est-à-dire relativement horizontal, qui est choisi, qui ne dépend pas d'une histoire, par exemple d'un lien parent-enfant, mais qui peut se placer entre des frères voilà, qui ont les mêmes parents ou des frères qui ont des mêmes centres d'intérêt, je pense que cette sacralité de la fraternité, elle reste très très vivante. Et puis, je crois que c'est le côté sacré de cette fraternité, c'est-à-dire cette perception qu'il y a là quelque chose qui est tout à fait essentiel, qui donne la vraie profondeur à la fraternité. C'est-à-dire, au fond, il n'y a pas de fraternité vraie sans une forme de sacralité. Et si cette sacralité au cœur de la fraternité n'est pas accessible, si on la sent comme introuvable, alors la fraternité risque d'être opportuniste, ou elle risque d'être temporaire, ou elle risque d'être extrêmement partielle.
Alors peut-être que cette transcendance aujourd'hui, oui, peut-être prend-elle des formes qu'on n'aurait pas imaginées par le passé? Je ne sais pas, peut-être une transcendance de l'histoire, d'un certain oui, partage de valeurs communes.
Oui, dans le sens où, par exemple, l'histoire, c'est quand même ce qui fait du sens. Hein. Notre passé, c'est notre présent intérieur, c'est ce qui nous détermine, c'est ce qui détermine les choix de tous les jours. Donc je pense que dans la fraternité, la loi, elle n'est que intérieure. C'est-à-dire, elle n'est pas extérieure. Il n'y a pas de possibilité d'imposer, au fond, cette fraternité. Et parce qu'elle est intérieure, elle s'inscrit dans quelque chose qui est essentiel. C'est dans ce sens-là qu'il me semble qu'il y a une sacralité dans la fraternité. C'est-à-dire, elle va... Vous savez, on dit qu'on renvoie à ces deux étymologies de sacrilège et de sacrifice. Hein. C'est-à-dire, le sacrilège, c'est une blessure au fond du sacré, et le sacrifice, c'est ce qui fait du sacré. Et on voit bien que dans un lien profondément fraternel, s'il y a l'un des deux frères qui fait quelque chose qui va contre cette fraternité, alors il va y avoir quelque chose de l'ordre du sacrilège. Hein. Et que si le frère demande à l'autre, au nom de cette fraternité, quelque chose d'important, l'autre va être prêt à en faire du sacré, c'est-à-dire à se sacrifier pour l'autre, dans une certaine mesure peut-être, hein, mais en donnant quelque chose d'essentiel de lui-même. C'est pour ça qu'il me semble que cette sacralité, elle est vraiment au cœur de la fraternité, c'est ce qui la fonde profondément.
Alors malheureusement, s'il y a sacralité, il peut aussi y avoir fanatisme.
Voilà, alors on peut bien penser que dans cette fraternité, il y a le risque d'une perversion. Une perversion de la sacralité, c'est au fond inviter l'autre frère à quelque chose qui ne s'inscrit pas dans une fraternité sacrée, mais au fond dans une utilisation de ce mot fraternité pour en faire quelque chose. Et comme vous l'avez dit, l'exemple le plus typique, c'est les fanatiques. Les fanatiques, ils s'appellent frères dans ce fanatisme. De temps en temps, on l'a vu dans les épisodes récents depuis un an et demi en France, de temps en temps, ils sont réellement en plus des frères, c'est-à-dire ils ont les mêmes parents. Donc je crois que le fanatique, il brandit en quelque sorte cette fraternité, hein, cette fraternité des conquérants par exemple, ou cette fraternité, je ne sais pas, du côté du wahhabisme par exemple. Hein. Mais il demande aux frères, non pas un lien sacré, mais il lui demande de mourir pour lui. Alors qu'il me semble que dans une fraternité qui est plus juste, c'est le vrai frère, lui, il est prêt non pas à réclamer la mort de l'autre, mais à dire « je te donne ma vie », c'est-à-dire quelque chose qu'il implique, hein, lui-même. Donc je pense que le fanatique, il encense en quelque sorte, c'est-à-dire il sacralise, hein, si on reprend plein le mot de l'encens, il sacralise, mais de manière tragique, une forme de fraternité, mais c'est dans un fratricide original sans altérité. C'est-à-dire le vrai frère dit « je ne vais pas répondre à ta demande de me tuer pour toi, mais nous allons voir comment nous vivons cette fraternité ». Et je pense que si la tension entre les frères se propose comme une potentialité de paix, alors il y a des chances qu'elle choisisse.
Cher monsieur Brian Boyd, sans doute avez-vous été informé maintenant du décès prématuré de votre fils. Toutefois, il y a certains détails personnels.
Nous sommes navrés de le voir se changer.
Vous ne pourra jamais exprimer la peine
dans les circonstances.
Je vous prie d'accepter.
Prends cette perte épouvantable.
Le vicier supérieur de Robert tombait au
service de son
père. C'était un grand soldat.
Par la grâce de Dieu, camarade,
et l'aide de votre fils.
D'entre nous qui ont connu.
Veuillez accepter mes plus sincères condoléances.
Venir avec ma plus profonde sympathie.
Colonel, il y a quelque chose que vous devez savoir.
Oui.
Ces deux hommes sont morts en Normandie. Celui-ci à Omaha Beach, Sean Ryan. Celui-là à Utah Beach, Peter Ryan. Lui a été tué la semaine dernière en Nouvelle-Guinée.
Daniel Ryan.
Ce sont trois frères, colonel. Je viens d'apprendre que cet après-midi, leur mère va recevoir les trois télégrammes. Ce n'est pas tout. Il y a un quatrième frère. Le plus jeune. Il est quelque part en Normandie, on ne sait pas où.
Si ce garçon est vivant, il faut envoyer quelqu'un le trouver. Et il faut qu'on le sorte de là.
Un soldat de la 101e a perdu trois de ses frères et il a son billet de retour.
Ça va pas être facile de trouver un simple soldat dans cette foutue guerre.
Aura reconnu le film Il faut le sauver, le soldat Ryan avec Tom Hanks. Docteur Dominique Michel, en voilà un bel exemple de fraternité à travers ce film. Et puis, du côté sacré aussi de la fraternité, on voit bien que la guerre, l'épreuve, peut redonner du sacré à la fraternité et que des gens vont pour le coup sacrifier leur vie pour sauver l'un des leurs.
Oui, justement, c'est bien cette sacralité qui, à mon avis, n'a rien à voir avec le religieux. Hein. Le religieux, c'est une des formes particulières d'expression du sacré. Mais il y a un sacré laïque à l'évidence, et là, vous venez bien d'en nommer un, par exemple, c'est-à-dire défendre sa patrie, par exemple, au nom de valeurs qu'on pense tout à fait essentielles. Ça fait du sens et ça s'inscrit dans une sacralité.
D'ailleurs, on imagine mal un bataillon, un régiment où les soldats n'auraient aucune fraternité entre eux. Oui. Ça court à l'échec. Hein. En tout cas, dans tous les films, c'est ce qui est prouvé. Hein.
Oui, en tout cas, de toute façon, comme on dit, ils sont frères d'armes. Hein, on dit ça, d'ailleurs, ils sont frères d'armes, c'est une expression. Et puis, on est dans une dimension, quand on monte au combat, j'imagine, en tout cas, dans une dimension d'horizontalité. Hein, c'est-à-dire, il y a un ordre qui vient d'en haut, qui est considéré comme un ordre hiérarchique du côté de la sacralité d'ordre dont j'ai parlé. Mais ce qui est à l'œuvre quand on monte au combat, c'est une sacralité de communion. Hein. Voilà, c'est pas, on obéit à une loi qui n'est pas l'ordre du capitaine, du commandant ou du colonel. On obéit à une autre loi qui transcende, pour reprendre le mot que vous avez employé tout à l'heure, qui transcende l'ordre, hein, qui le dépasse largement.
Cela signifie que la fraternité, elle tend à supprimer les hiérarchies ?
Alors, ça c'est quelque chose qui est important, parce que dans certaines circonstances, la fraternité, enfin dans bon nombre de circonstances, la fraternité est quelque chose de tout à fait utile. Mais la fraternité, c'est un lien qui est horizontal, hein, c'est un lien entre frères. Ils n'ont pas obligatoirement le même âge, ou ils ont le même âge, peu importe. Mais en tout cas, il y a cette horizontalité. Et que la fraternité vient ouvrir un espace dans lequel les rapports hiérarchiques sont en quelque sorte gommés. Et j'ai envie de dire que dans certaines circonstances, ça n'est pas souhaitable. Hein. Par exemple, pour décider d'une guerre, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne la responsabilité. Et dans cette position-là, lui, il va se référer à une sacralité et il est obligé de laisser de côté la dimension d'une fraternité à court terme, par exemple. Hein ? Je donne l'exemple dans un milieu que je connais un peu mieux, qui est celui, par exemple, d'une décision d'arrêt de traitement actif chez une personne en fin de vie. L'espace de la discussion, de l'échange, de la réflexion, du partage avec les membres de la famille, c'est-à-dire le conjoint, les enfants, les parents, enfin voilà, et se fait dans un climat qu'on pourrait dire, en raison même de cette sacralité de la vie qui s'achève, dans une horizontalité fraternelle. Mais in fine, celui qui doit décider, c'est le médecin ou c'est l'équipe médicale. Hein, vous voyez ? Donc là, le risque, ça serait de substituer dans un processus décisionnel une fraternité qui est requise, mais qui doit, à mon avis, à un certain moment, s'effacer.
Bon. Oui, ça veut dire que la fraternité, elle impose des choix, de faire des choix parfois. Des choix qui peuvent être contre... Enfin, en tout cas, auxquels notre conviction est susceptible de se heurter.
Oui, alors ça, c'est un autre espace, mais une autre approche, une autre façon d'aborder les choses. Comment dire ça ? Dans certaines circonstances, on peut être confronté à une sorte de conflit de fidélité, de conflit d'engagement, les deux étant fraternels. C'est-à-dire, de temps en temps, on peut avoir, par exemple, une forme de fidélité fraternelle à un lien originel, un lien premier, un lien familial, un lien de proximité, un lien d'histoire, hein, d'un côté. Et puis de l'autre, on peut avoir un autre lien fraternel avec d'autres personnes, par exemple dans un espace professionnel, dans un espace d'engagement associatif, dans un espace d'engagement de valeurs. Et de temps en temps, il y a ces confrontations dans les valeurs du fraternel. Hein. Donc, on pourrait dire la prise de décision, lorsqu'elle relève d'une structure hiérarchique, elle est plus simple, puisque celui qui a la possibilité de prendre la décision décide, point. Dans le fraternel, c'est plus compliqué, puisque ce qui va être requis, c'est l'échange, la discussion, et éventuellement le consensus. Or, le consensus, c'est compliqué parce que de temps en temps, on est dans une éthique de conviction ou une éthique de responsabilité qui fait que, voilà, il n'y a pas de consensus simple.
Et puis, il y a beaucoup d'émotions, forcément, dans la fraternité.
Et puis, il y a beaucoup d'émotions.
Ça peut pousser le choix.
Voilà, voilà.
En tout cas, l'orienter.
Voilà, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure du côté de la différence entre la solidarité et la fraternité. C'est-à-dire, dans la solidarité, je le fais, je pose mon acte, éventuellement, je donne mon chèque, je participe au Téléthon, voilà. Si déjà, je vais au Resto du Cœur, je suis probablement dans un espace d'une solidarité, d'une vraie solidarité, mais j'y ajoute la petite touche de la fraternité. Hein, parce que potentiellement, il va y avoir de l'humain et pas simplement un transfert de richesse du plus riche vers le plus démuni. Hein.
Alors précédemment, nous avions commencé à aborder les côtés un peu obscurs de la fraternité. Alors je voudrais qu'on revienne à ces fraternités qui paraissent impossibles. Vous en citez quelques exemples, Van Gogh par exemple, et puis Gauguin, qui ont tenté de vivre ensemble, mais ça se termine très très mal. Ça peut parfois être violent et provoquer des drames et des souffrances.
Oui, alors j'ai envie de prendre un exemple. Vous avez cité en effet ces personnages-là. Peut-être je prendrai l'exemple de Salvador Dali, hein, pour montrer ce que la fraternité aussi peut avoir dans certaines circonstances comme composante extrêmement, extrêmement sombre. On pourrait partir, je crois que je l'ai peut-être déjà raconté une fois, mais c'est peut-être quand même important de le souligner. Il y a ce tableau que tout le monde connaît qui s'appelle l'Angélus de Millet. L'Angélus de Millet, Salvador Dali l'a peint, je ne sais plus combien, peut-être une cinquantaine ou une soixantaine de fois. Et un jour, on a fait des radiographies profondes de ce tableau, hein, qui représente un homme et une femme. Il y a plusieurs versions. Millet a fait plusieurs versions, deux ou trois, je crois, peut-être un peu plus. Et il y a un champ, il y a une église ou un village tout à fait à l'horizon. Et puis devant, il y a un grand, au premier plan, il y a un bouquet de fleurs. Et on a montré qu'en fait, sous le bouquet de fleurs, il y avait une tombe d'enfant. Alors, cette tombe d'enfant, elle renvoie à quoi? Elle renvoie au frère mort. Hein. Ce frère mort, Salvador Dali en avait une expérience tout à fait singulière, puisqu'il raconte que quand il était petit, sa mère l'emmenait au cimetière et il voyait une pierre tombale sur laquelle il y avait marqué Salvador Dali, hein, c'est-à-dire que ses parents lui avaient redonné le même prénom que son frère mort. Donc vous voyez que se déploie ici toute la question des enfants de remplacement, c'est-à-dire d'une fraternité qui est en gros absolument impossible à assumer, hein, puisque le frère aîné qui est mort par exemple, eh bien, il est obligatoirement, et c'est d'ailleurs bien compréhensible, idéalisé, hein, c'est-à-dire il est mort à tel âge et il n'a pas créé tous les soucis qu'il aurait pu y avoir après, que ce soit de l'otite, de la gastro-entérite, des échecs scolaires, de l'adolescence pénible ou tout ce qu'on veut. Voilà. Et donc pour le frère d'après, il y a quelque chose de tout à fait impossible et la meilleure façon de devenir le frère aussi idéal que l'aîné, c'est parfois de mourir. Hein. Donc vous voyez que c'est important aussi de penser qu'il y a une fraternité mortifère qui peut être à l'œuvre. On voit d'ailleurs ça, on voit la même chose de manière moins tragique lorsque un des frères, même chose pour les sœurs, a un frère ou une sœur en grande difficulté pour des raisons psychiques, pour des raisons somatiques, ou par exemple parce qu'il a un cancer. Hein. Et lorsque le petit frère a un cancer et qu'on ne fait que s'occuper de lui, le frère aîné peut développer une sorte de haine vis-à-vis de ce frère-là. Et si par malheur le frère meurt de sa maladie, l'aîné en l'occurrence, mais ça peut être dans l'autre sens bien évidemment, va ressentir un sentiment de culpabilité en se disant « est-ce que c'est pas ma haine qui l'a fait mourir ?» Donc voilà, la fraternité c'est quelque chose qui est porteur de paix, qui est porteur de liens, qui est porteur de gain d'être à mon avis, de manière très intense, mais il y a aussi une fraternité extrêmement lourde et extrêmement mortifère.
Alors dans le texte sur lequel je m'appuie, vous parlez également du risque d'un fraternel nostalgique. Expliquez-nous ça.
Oui, alors, le fraternel nostalgique, on peut le situer peut-être dans deux deux espaces, d'abord dans le texte de Caïn et Abel. Vous savez, il y a Adam et Ève, hein, ou Ish et Isha, enfin voilà, il y a plusieurs noms suivant le stade où ils en sont, de leur développement, qui sont dans dans cette sorte de paradis idéalisé. Et puis, à un certain moment, ils vont accéder à la connaissance, et il faut remercier Ève d'avoir croqué le fruit défendu, parce que ça correspond au fond pour ces deux personnages, ce couple primordial, à une prise de connaissance et une sortie de l'enfance. Ils sortent de l'enfance et donc ils sont chassés, mais pas parce qu'ils ont fauté, mais juste parce qu'ils ont grandi, ils ont eu accès à une maturité. Et c'est quand même extrêmement, extrêmement étrange de savoir que juste après, les deux enfants qui vont naître de ce lien, Caïn et Abel, vont s'entretuer. Alors on pourra, si vous le voulez, mais ce n'est pas le lieu aujourd'hui, je crois, peut-être consacrer une émission là-dessus. C'est compliqué, il y a sûrement des tas de gens beaucoup plus savants que moi pour en parler.
Oui, puis je renvoie nos auditeurs aux premières émissions sur la fraternité où on a déjà parlé de Caïn et Abel aussi. Ouais, ouais.
Donc je crois que par rapport à la nostalgie, on peut se dire qu'il y a toujours le fantasme d'une fraternité originelle du temps où on était enfant et où on s'entendait très bien. Ou alors on se disputait, mais c'était juste pour des billes, ou c'était juste pour la petite voiture, ou c'était juste pour une poupée, ou pour... voilà, et que ça n'avait pas beaucoup d'importance.
Est-ce qu'il y aurait aussi une nostalgie des clans, des tribus plus ou moins primitives qu'on peut voir à travers le monde, où ils semblent en effet très très soudés, très fraternels, et puis même frères de sang pour la plupart de la tribu. Est-ce qu'il y aurait une nostalgie comme ça aussi, du bon sauvage, entre guillemets?
Vous savez, nostalgie, hein, c'est formé de deux mots, hein, nostos en grec qui veut dire le retour, hein, et puis algie qui est la douleur, hein, comme on dit, on a une névralgie, ou on a une lombalgie, ou une sciatalgie par exemple. Hein. Donc dans ce mot, il y a l'idée que le retour est en gros délicieusement douloureux, hein, c'est-à-dire que tout le monde aime bien la nostalgie, on sait que ça fait un petit peu mal à l'âme, mais pas trop. Donc, en effet, il y a la tentation de la régression. Je crois que dans les communautés, les petites communautés, comme peut-être dans les plus grandes communautés, on retrouve la même chose. Je sais que les réunions familiales, par exemple, on en parlait il y a très peu de temps du côté de cette perte de sacralité du côté de la famille que vous évoquiez tout à l'heure, dans les réunions familiales, il y a probablement cette nostalgie un peu régressive, mais j'allais dire délicieusement régressive. Et je crois quand même que de plus en plus, par exemple, cet espace que l'on appelle les cousinades se déploie un petit peu partout. Il y a probablement là le désir de retrouver quelque chose de ce temps de l'enfance, de ce temps de l'innocence, mais, parce que personne n'en est dupe, finalement, de tenter de vivre ensemble une fraternité différenciée, une fraternité adulte, une fraternité où il y a une altérité qui se vit, mais où on sait qu'il y a profondément une sacralité qu'il ne faut pas oublier.
Ainsi s'achève notre émission. Un grand merci au docteur Dominique Desmichel. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours afin de poursuivre notre exploration du concept de la fraternité. Et d'ici là, restez fraternels.